Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. Bonjour à tous, allez c'est parti pour une heure de podcast, ravi de vous retrouver après cette petite pause technique. Ah ben, on n'a qu'à fouiller, on peut le dire, hein, on est humain hein, et puis la technique ça reste la technique. Lui il n'a pas qu'à fouiller et il est humain.
Thomas, j'ai pas qu'à fouiller là mais la semaine dernière j'ai sûrement qu'à fouiller. Hein,
bah t'as qu'à fouiller la semaine dernière, ouais, attends je suis pas en train de te charger en disant que c'est de ta faute, c'est un peu arrivé,
ouais,
c'est comme ça.
C'est...
Bon, on n'a qu'à fouiller la semaine dernière donc vous avez eu droit à un best-of. Eric, comment tu vas?
Bah ça va,
T'as sorti une chambre de bain?
Ouais, parce que le sol se ressuit bien pour l'instant, donc c'est impeccable. Donc on peut vraiment travailler fortement maintenant, sauf que bah, c'est pas normal qu'il fasse si chaud à cette époque. Hein, donc, par contre, c'est ça quoi, qui m'embête.
Ouais. Alors quand je disais t'as sorti le short de bain, évidemment, c'est la ouais. température. Même si nous, honnêtement, en Alsace, on n'est pas trop à plein, parce qu'on a quand même des moins 2 le matin.
Oui, c'est ça, on est autour de 0, donc ça va.
Ouais.
Je dirais que c'est correct, mais après, les températures dans la journée dès que le soleil chauffe, c'est quand même pas mal. Hein.
Ouais, et c'est vrai qu'au soleil, on atteint une température quasiment d'un début avril, en tout cas en ressenti. Il faut dire que le soleil cogne assez fort, et il faut dire aussi que pour le coup, on a l'impression que les végétaux, pour certains, se réveillent pas mal.
Ouais.
Et tout ça est assez problématique. Ouais. On pense bien sûr, notamment dans les Pyrénées-Orientales, où il y a des vraies problématiques d'eau. Déjà là, on est début février, il n'a pas plu depuis des semaines et des semaines et des semaines. Donc il n'y a rien de très réjouissant. On va essayer de vous remonter le moral aussi quand même.
Je pense aussi à notre copine de Californie là, qui est sous les trombes d'eau.
Effectivement, et ça secoue un petit peu partout, hein. on est d'accord. En tout cas, vous qui nous écoutez, on est ravis de vous retrouver après cette petite pause. On va essayer de répondre bien sûr à vos questions dans la deuxième partie de l'émission. Et puis juste avant ça, on va parler du tempo au jardin. Alors tu disais, allez, on va tout doucement bouger là, parce que
oui, voilà, c'est
une lune, qui est favorable au semis en ligne.
C'est ça, donc là, quel que soit le secteur en France, il y a des choses à faire. Alors bien sûr, plus on descend, plus là, on va être un peu plus dehors ou à l'abri, et plus on va monter au nord et dans l'est, plus on sera pour des semis au chaud, notamment pour les plantes qui sont un petit peu longues à pousser, comme les aubergines et les poivrons, où les semis, c'est le plein moment, quoi.
Donc, aubergines, poivrons, en pleine terre, alors uniquement pour le sud-sud-est, hein, on est d'accord, Eric?
Oui, voilà, on est là en pleine terre, on sera plutôt sur l'épinard, les fèves, les pois, hein, donc là, il y a sans souci.
Ok.
Voilà, et puis sous-abri, là, il y a tout ce qui est carotative, et oui, les laitues, le persil. Hein.
Le poireau?
Le poireau, bientôt. Voilà,
bientôt, pas encore, un peu tôt.
Bah, après, si on veut faire du poireau d'été, oui, voilà. Mais,
bon, aujourd'hui, poireau d'été, très... éventuellement.
Voilà, poireau d'été, c'est quand même assez compliqué de plus en plus. Hein. C'est comme le chou d'été, la salade d'été. Voilà, avec les... Alors peut-être que cette année, ça ira très bien. Hein.
Oui, puis c'est pas du tout le climat qu'on
aura. Ce qu'il y a aussi, c'est
la météo
que
même.
Là, j'en compte plein de jardiniers et de jardinières. Il n'y a pas que la sève qui monte dans les plantes aussi chez eux. Quoi, hein. Et là, ils veulent tout semer. Hein.
Ah, donc attention aussi. Après, c'est ce que tu disais alors, la semaine dernière. Bon voilà, c'est ce que tu disais la semaine dernière sans que les auditeurs le découvrent.
Ouais.
Le sachent, effectivement, il y a aussi une dynamique évidemment où on se réveille, etc. Mais on a regardé, j'ai regardé un peu nous le relevé, les relevés météo de la semaine, enfin de l'année dernière pardon, courant février, ça caillait quand même beaucoup et on a là un petit rafraîchissement qui va arriver. Bon,
ouais.
Les 5-6 degrés, on va pas, on sera plus gelé en journée, mais il est tout à fait possible évidemment que on puisse retrouver des températures très négatives courant février éventuellement, on ne sait pas.
Oui,
ça.
Complètement. Et
on est d'accord, donc c'est d'où l'intérêt peut-être. Alors au sud, bon voilà, on a compris, mais
oui.
D'où l'intérêt peut-être au nord de la Loire de ne pas trop s'exciter non plus tout de
non,
suite.
Non, faut pas s'exciter, surtout que après tout dépend à quelle altitude vous êtes. Hein, voilà, on sait qu'on est à 400, 500, 600, c'est pas du tout la même chose. Hein, et on sait que Des fois, à ces altitudes-là, on a des inversions de température. Il fait plus chaud en haut que dans la plaine. Donc attention à ça. Voilà, en sachant que souvent une graine, ce qui est bien, c'est que bah, bien sûr, une graine de petits pois, il n'y a pas de souci. Hein, tant qu'il fait froid, elle reste dans le sol. Hein. Mais le problème, c'est souvent quand ça commence à lever, voilà, il fait chaud, et puis après, hop, ça donne un coup de froid, quoi.
Et puis on a clairement des épisodes de pluie, hein,
Ouais.
notamment nouveau dans le nord de la France, où il y a quand même beaucoup
Ouais.
d'eau, à contrario avec, je le disais il y a un instant, hein, dans les Pyrénées-Orientales notamment, enfin, toute la partie en bas est quand même assez compliquée, hein, il y a un vrai, 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 vrai comment dire, déficit hydrique, comme on dit, et on pense à ceux qui nous écoutent, parce que au-delà bien sûr des approvisionnements en eau qui sont très compliqués, puisqu'il y a des camions-citernes qui viennent ravitailler certaines communes, la question du potager, elle est quasiment inexistante, hein, dans ces
Ah oui,
conditions-là.
là, c'est pas la peine, hein. Le professionnel peut peut-être se permettre parce
Voilà.
qu'il aura des
Encore une fois, c'est
dérogations,
encadré,
voilà.
etc. Voilà, c'est
Voilà.
ça.
Mais le particulier, moi, quand je vois les reportages qui sont faits, ça me semble très compliqué, quoi.
Et d'autant plus qu'on le rappelle, hein, globalement, on économise, c'est l'équivalent, je crois, d'un SMIC, hein, c'est ça par an, hein, à peu près, ce que ça peut ramener pour une surface moyenne. Encore une fois, c'est des grosses moyennes, et puis ça va dépendre de là où on est. Mais globalement, on est sur cette économie quand on cultive son propre potager. Bon, on espère que la pluie va venir pas trop fort dans le nord, et puis pas trop fort non plus, mais régulièrement dans les prochaines semaines. Pour ceux qui nous écoutent dans le sud de la France, si vous êtes témoin évidemment de ce genre de choses ou concerné, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous remonter ces informations pour nous dire un petit peu comment vous voyez en fait votre saison jardin, même si bien sûr, encore une fois, c'est anecdotique ou pas, parce que certains courent quand même sur le potager pour se nourrir, mais à quel point ça vous concerne. Et si vous êtes professionnel, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter ces retours d'expérience. Mon cher Eric, on est allé tellement vite dans ce début, parce qu'on était tellement content de retourner en podcast et retourner à l'antenne, comme on dit, qu'on a oublié le sujet de la semaine. Tu vas te transformer, pardon, en professeur et en leçon de
Oui, voilà,
choses.
on va parler un petit peu de maths, c'est ça qui est important. Parce que souvent, maîtriser quelques notions de maths au niveau, voilà, surface, périmètre. Aussi, petite astuce pour le calcul, voilà, savoir la quantité d'eau qui est tombée. Voilà, entre les millimètres, au mètre carré, les centimètres, enfin, il y a plein de notions comme ça qui sont des fois un petit peu mélangées et qui permet peut-être d'avoir une bonne, meilleure notion de savoir entre des fois, est-ce qu'il a plu, un peu, beaucoup, excessivement, voilà, c'est très compliqué cette notion. Parce qu'entre entre un jardinier et un autre jardinier, souvent il n'y a pas la même, compréhension sur la notion de beaucoup ou peu, et des fois c'est très bien de peut-être de l'identifier en centimètres ou en litres, voilà, c'est quand même plus intéressant.
Leçon de mathématiques appliquées.
Voilà, c'est ça qui est important, parce qu'il faut savoir qu'à partir voilà, à partir de la semaine prochaine, là on sera en plein dans l'activité jardin, parce que c'est parti à 100%, quoi.
Et on n'aura plus le temps de parler de maths, c'est ça?
Non, c'est ça.
Bon, très bien. En attendant de parler justement de cette leçon de choses, alors on va parler de mètres carrés, d'art, d'hectares aussi, etc., etc. On va parler de tout ça dans un instant. Juste avant, on reprend les bonnes vieilles habitudes. contact@monjardinbio.com pour nous envoyer vos questions, vos réactions. Alors, on va bien sûr rattraper le retard pour ceux qui n'ont pas été cités aujourd'hui. Désolé, je pense notamment à un auditeur qui nous a fait la réflexion sur une question autour des agrumes sur la page Facebook. N'hésitez pas à nous renvoyer votre question, parce que vous doutez bien que on les archive pas, les questions, donc elle est passée à la trappe. Donc mille excuses. N'hésitez pas à nous renvoyer votre question qu'on traitera évidemment avec grand plaisir. Eric, je te propose de commencer avec Anne-Sophie qui nous dit: bonjour, votre dossier du 12 janvier sur la taille des grimpantes m'a donné l'idée de vous solliciter pour une question. Nous habitons à la campagne à 400 mètres d'altitude dans le nord Franche-Comté et avons une grande terrasse en L côté sud-sud-ouest sur dalle béton. Étant sur les hauteurs du village, notre terrain est très venté et nous pensions installer une pergola pour remplacer le parasol de 100 kg qui finit régulièrement chez le voisin. Nous pensons à une pergola en bois à végétaliser que nous installerions dans l'angle de la terrasse en prolongement d'une terrasse couverte. Et nous souhaitons avoir un couvert végétal important à la belle saison qui disparaîtra totalement en hiver pour laisser passer le soleil dans la maison et qui tolère le plein soleil et le vent avec une forte amplitude thermique, puisque un climat continental, on va le rappeler, voilà, on est quand même à 400 mètres d'altitude. Tout ça devra couvrir effectivement la pergola sans en abîmer la structure, ni envahir le chéneau de la terrasse couverte toute proche. Bon, ça c'est un peu le cahier des charges. Alors, Anne-Sophie nous dit, j'ai pensé au houblon, et notamment le houblon doré. J'aime beaucoup le fouillis de ses feuilles qui font penser à de la vigne vierge, et notamment ces petits cônes de houblon qui, paraît-il, sentent trop bon. Mais j'ai lu que le houblon pouvait devenir envahissant et faire des rejets à plusieurs mètres du pied-mer. Est-ce que c'est facilement maîtrisable ou est-ce qu'on peut se sentir rapidement dépassé?
Alors oui, ça fait des rejets, hein. C'est le côté un petit peu reproduction du houblon, hein, qui se fait par deux niveaux, par le haut et aussi par le bas. N'oubliez pas que bon voilà, on peut quand même facilement le gérer si on le gère tous les ans.
Ok, donc
Voilà.
un coup de cisaille et sécateur,
Voilà,
bravo.
et puis surtout le principe, c'est dès qu'on voit un truc qui redémarre du sol, bah il faut tout de suite le couper, quoi. Ou pas si on veut multiplier les pieds sur les côtés, hein. C'est aussi ça qui est intéressant. Parce que si j'ai bien compris, c'est que il faut que ce houblon soit très vivace en fin de compte, surtout l'été. Voilà, donc quand il sera bien installé, bah, il va tout de suite démarrer quand c'est nécessaire. Et puis bien sûr, à l'automne, vous pourrez le couper parce que vous n'oubliez pas oublier que c'est une plante vivace, mais la pousse au-dessus du sol est annuelle. Donc ça veut dire qu'il faut l'enlever tous les ans. Donc c'est ça un petit peu la problématique. Enfin, c'est ça l'intérêt, mais aussi la problématique. C'est qu'il va y en avoir partout, quoi. Donc ça va. Donc si vous faites une structure, ne soyez pas. Il faut que ça soit une structure solide. Parce que je dis pas que le houblon va s'entortiller et arracher tout, parce que ça quand même pas, ça qu'une force d'une année. Hein. C'est pas comme je dirais, une clématite. Et surtout par exemple du kiwi et compagnie, donc dont la force est très forte. C'est simplement que c'est celui qui va l'arracher. Si on est un peu bourrin, on risque de casser un peu la structure du bois. C'est pour ça, il faut mieux que ça soit sur grosse structure. C'est intéressant. Et puis après, le déchet, il est facilement gérable si tranquillement vous l'enlevez, parce qu'il y en aura un peu partout, quoi.
Deuxième question, est-ce que cette plante nécessite un arrosage régulier ou est-ce qu'elle peut s'en passer une fois bien installée?
Alors oui, ça peut s'en passer, mais il faut quand même qu'il y ait une végétalisation au pied. C'est ça
Oui,
qui est
pour
important. Pour que
une sorte de
justement,
bailliage, c'est
le
ça?
houblon, c'est la strate verticale qui doit être sur un support arbre, qui le professionnel, lui, il l'a plutôt sur une structure de 10 mètres, je dirais, voilà, en perche et compagnie. Mais en réalité, dans la nature, il colonise les buissons, les arbres et compagnie. Donc il faut qu'il y ait quand même une belle végétalisation au sol et mettre les déchets qu'on a enlevés qui sont hyper productifs. On les remet au pied, pré-broyés, je dirais avec une cisaille.
Troisième question, est-ce que cette plante est adaptée à la situation plein pied, pardon, plein sud, plein vent, ou est-ce que ses feuilles risquent de sécher?
Alors, il peut y avoir des coups de chaud, mais bon, globalement, voilà, quand c'est en houblonnière, il n'y a pas trop de soucis, quoi.
Ok.
Voilà, mais par contre, comme dit, il faut quand même une structuration au sol de manière que ça puisse avoir un bon démarrage, quoi.
Bien. Dernière question. Eric, si le
Ouais.
houblon ne vous semble pas la meilleure option, est-ce que vous ne conseillerez, et qu'est-ce que vous me conseillerez compte tenu des critères énoncés ci-dessus?
Bah là, ce que j'ai bien compris, c'est le fait qu'il n'y ait plus rien l'hiver, quoi. Hein. Alors moi, ce que je trouve dans le houblon, c'est sympa, ça sent bon,
Oui,
mais
pour me
ça
faire la
manque un
bière
peu de
après.
déco. Ça manque un peu de déco, quoi.
Ça manque un peu de quoi? De fleurs?
De fleurs, voilà.
De
Donc ce que je
couleurs, je veux dire, pardon,
de
de
fleurs,
couleurs.
voilà. Donc ce que je vous conseillerais, bah, c'est de le mélanger avec une plante annuelle, je dirais grimpante. Voilà, type hippomée, voilà, qui peuvent aussi faire des pousses de plus de 3 mètres. Hein, et comme ça va habiller. En même temps, ils vont se concurrencer l'un une l'autre, mais sans vraiment savoir qui c'est qui va gagner. Et quand vous enlèverez votre houblon, vous aurez aussi les hippomées que vous allez enlever. Mais ça peut être aussi des pois de senteur, ça peut être aussi. Voilà, il y a beaucoup de plantes grimpantes annuelles, quoi.
Bien. Je finis en vous remerciant par avance pour votre réponse, que j'écouterai attentivement car j'ai jamais manqué un seul épisode depuis le début. Donc ça me fort, bravo et merci à tous les deux de partager votre temps et votre passion. Signé Anne-Sophie. Jacques, qui nous écrit dans l'Essonne, qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice. Tout d'abord, merci pour vos podcasts que j'ai toujours un grand plaisir à écouter. En 2020, j'ai planté en pleine terre un néflier du Japon à partir d'un plant issu d'un noyau semé en 2015 que j'avais jusque-là gardé en pot, faute de terrain. Depuis, il a bien grandi et pour mon plus grand plaisir, Il est cependant très dense et je me demande si, comme pour d'autres fruitiers, il faudrait que je le taille pour aérer un peu le houppier. De rares infos glanées sur Internet indiquent qu'un effluier ne se taille pas, mais là j'avoue que ça me
Ouais.
démange du sécateur lorsque je le vois avec toutes ses branches. Il nous a envoyé une photo. Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire? Merci
Oui,
encore pour vos précieux conseils.
voilà, globalement, ça se taille pas vraiment parce que chaque pouce va prendre sa place avec le poids des feuilles, parce que c'est quand même des feuilles qui sont très lourdes. Mais quand il y a un peu de densité comme ça, ce qu'il faut couper, c'est les branches qui se superposent de trop. Voilà.
Ok.
Un peu comme voilà, le figuier, mais c'est pas la peine d'avoir une taille très précise, quoi.
D'accord.
C'est vraiment
Donc.
la superposition. Si vous voyez qu'il y a vraiment trop de plans de branches qui sont l'une dans l'autre, bah faut faire une petite sélection, quoi.
Bien. Aurore, qui nous a posé une question qui a eu et qui nous dit elle est auditrice régulière du podcast et elle a beaucoup appris ces dernières années. Elle se tourne vers nous pour une. Ce qu'elle appelle une catastrophe qui est arrivée dans son potager. Il a été recouvert de poussière liée à des travaux, destruction de béton et de briques portées par le vent. En cette période hivernale, le potager ne comporte que des pieds de fèves et le reste étant laissé en herbe folle, mollène et restes de roquettes ou radis oubliés. Je crains que cette poussière grise qui a tout recouvert ne s'infiltre dans la terre et soit dangereuse pour la consommation des légumes. Qu'en pensez-vous? Que dois-je faire pour limiter les dégâts? Pensez-vous que les fèves pourront être encore consommées? Y a-t-il des plantes à semer pour aider à restaurer la terre? Quand pourrais-je à nouveau jardiner dans cet espace? Parce que j'ai pas de autre emplacement dans mon jardin. Je vous remercie pour votre réponse. Alors justement, Aurore nous a envoyé une photo qui effectivement laisse apparaître un fredon, enfin de la poussière hein, très clairement sur une grosse partie de son potager. Alors on peut comprendre qu'il y a effectivement une couche de poussière parce qu'on voit très bien les traces de pas hein, même là-dessus. L'avis de l'expert Eric par rapport à ça, parce que là on touche effectivement à de la pollution. Bon, on n'est pas scientifique donc on avance un peu
Sur
sur
un
des œufs
peu
là.
sur de la poussière, voilà, sur des œufs. Globalement, je vois pas que ça puisse avoir un problème, surtout qu'il va pleuvoir, ça va pouvoir, voilà, un petit peu se diluer. Voilà, ça va se mélanger au sol. Voilà, c'est pas quand même des grosses quantités, hein, c'est simplement un enfarinage, je dirais, de poussière. Voilà,
D'accord.
il n'y en aurait pas, ça aurait été mieux, mais voilà, je dirais, vu
Tu
la
serais pas
le
aussi
peu de quantité.
radical?
Non, vu le peu de quantité qu'il y a par rapport à la quantité de sol, je vois pas que ça fasse problème. Bien sûr, ça aurait été de la salade, bien sûr, ça aurait été des légumes feuilles de tout type, ça m'aurait posé problème. Mais là, voilà.
Bon. Donc pas trop de panique, même
Non.
si bon, la brique c'est pas grave, le béton c'est
Oui.
un peu plus délicat
Voilà.
effectivement. Maintenant, est-ce que si c'est sec, est-ce qu'on peut peut-être. Alors, est-ce que Aurore. Alors, bon, c'est. Voilà. Je sais pas moi, balayer le plus gros, même si c'est tellement fin qu'à mon avis, ça va être très
Non, mais non, là, je
compliqué.
dirais, c'est les pluies qui vont chasser l'ensemble, quoi.
Ouais.
Et après, quand elle va toucher son sol, bon, bah, ça va se mélanger avec le
Tu
sol.
insistes aussi sur la notion de dose et de dosage,
Oui,
en
voilà,
général.
là, c'est pas quand même 15 cm de poussière dessus, donc
Voilà,
ça.
ouais, c'est ça, ouais.
Bon, après, la brique, ça aurait été pas plus grave que ça, entre guillemets, bien qu'un déchet fin déstructure le sol, hein, faut pas oublier. Voilà. Moi, je suis pas. Voilà, je crois qu'il n'y aura pas de problème.
Bon.
Et comme les fèves, c'est aussi quelque chose qui va être après sous forme de graines, je vois pas le problème, quoi.
Bon, donc là-dessus, pas de souci. Alors, Sandrine, qui nous envoie un message, je t'ai envoyé d'ailleurs les photos. Tout d'abord, merci pour votre podcast que j'écoute avec grand intérêt chaque semaine, un rendez-vous hebdomadaire que je ne loupe pas. Merci pour tous vos conseils précieux pour nous aider au jardin et au potager. Je vis en Picardie sur un terrain de 1500 mètres carrés, dont une parcelle de quasi 900 mètres carrés que je commence à transformer en potager et en verger. Et je souhaite faire une zone de jardin nourricier. C'est une ancienne prairie à chevaux et elle est en grande partie recouverte de chiens-dents, d'orties et de ronces. Alors j'ai commencé à retourner certaines petites parties hein, pour cultiver, mais la lutte est féroce. Quels seraient vos conseils pour transformer les espaces, éliminer au mieux hein, ce chien-dent qui gagne du terrain plus vite que moi? Certaines touffes font quasiment 1 mètre de diamètre. J'ai lu qu'il fallait éviter le motoculteur pour pas disperser les rhizomes, mais auriez-vous un avis sur ce premier point?
Alors, il faut savoir que c'était bien que l'auditrice nous dise que c'est une zone à cheval, hein, c'était un parc à chevaux. Il ne faut pas oublier que là, il y a gros tassement, quoi, du sol, d'où
D'accord.
le fait qu'il y a aussi des chiens-dents. Voilà, parce que Le chien dent aime bien les sols qui est tassé. Donc le chien dent, dans son, comment on appelle ça, dans sa bonté extrême, est là pour décompacter le sol, pour installer la forêt. Mais on s'en fout un peu. Parce qu'il y a tellement de boulot après pour l'enlever. Les photos qu'il nous a envoyées montrent que c'est même plus de la touffe, hein, c'est de la super touffe. Hein.
La méga touffe. On
c'est de
est
la méga
d'accord,
touffe.
ouais.
Hein. Franchement, c'est marrant parce qu'en regardant la photo, je me voyais avec une bêche en train de mettre dans le sol. Et je ne suis pas sûr qu'on enfonce la bêche parce que le poids, d'abord, il faut enlever la touffe d'herbe, quoi. Donc là, c'est compliqué au niveau concurrence hein, du sol parce que là, il y a une grosse concurrence au-dessus, mais il y a aussi une grosse concurrence en dessous.
Donc en gros, un chevelu racinaire tellement dense que
Ouais,
c'est compliqué de,
c'est
c'est ça?
compliqué, voilà, c'est
Ouais.
compliqué. La seule chose, c'est de travailler sur ce qu'on appelle régression, c'est-à-dire de pouvoir couvrir avec une bâche épaisse, une bâche très opaque, pour justement l'affaiblir, quoi. Parce que là,
Maintenant, Eric?
maintenant, ouais, voilà, et
Maintenant,
je
ok.
dirais presque pendant un an, quoi. Hein.
Ah oui.
Alors, il
Ouais.
aurait fallu le faire à l'automne, c'est sûr, comme ça permet ça évite la repousse. Mais si c'est maintenant, ça ne sera pas avant 2025,
Bon, après,
l'utilisation de la
Sandrine peut
racine.
faire toujours, enfin, endroit par endroit, quoi,
Ouais,
hein.
donc, mais l'intérêt, c'est des fois de commencer une bonne fois, et puis voilà, hein, c'est ça le but du jeu, quoi.
Je vais dire une chose qu'on dit rarement là-dedans, mais si elle a un voisin avec un tracteur et une charrue, une bonne vieille charrue, est-ce que c'est, est-ce que
Oui.
c'est...
Mais pas une charrue qui tasse, quoi. Faudrait pas que ça soit un ensemble. Voilà, même je dirais l'idéal, c'est que. Bon, alors, on peut se passer pour un rétro, mais si ça pouvait venir avec charrue et cheval, ça aurait été.
Alors, idéal, charrue cheval,
Voilà. Ouais.
pour éviter de retasser le sol.
Ouais, c'est. Voilà, c'est.
Et à défaut, parce que
Bah,
là, là concrètement, enfin,
non, mais là,
tu
concrètement, il faudrait bâcher le sol. Hein, c'est.
Ouais.
Alors, moi, je le verrais bien comme ça, je bâche le sol. Alors, sauf s'il ne faut pas percer la bâche, hein, parce que ça dépend de la bâche qu'on nous prête et compagnie, parce que des fois c'est quand même des belles bâches. Sinon, ça serait de planter tout l'un mètre 80, 2 mètres dans cette bâche, on fait un trou et puis on met des courges et compagnie, quoi.
En attendant.
En attendant, quoi. Voilà.
Ok. Donc, en gros, Sandrine, là où c'est le plus gros, on peut éventuellement se
Ouais.
dire, on peut en attendant d'étouffer le reste, couvrir de courge, parce que ça, enfin voilà, il faut juste faire, j'imagine, c'est ce que tu disais, un trou, hein, de quoi, de deux,
Un
trois fers
fer
de
de
bêche,
bêche, quoi, un fer de
voilà,
bêche.
ouais, ok, pour au moins occuper l'espace et revoir les
Ouais.
choses
Ouais. Et
l'année
puis
prochaine.
pailler la bâche pour pas que ça soit moche, par exemple.
Ouais.
Ou mettre du foin. Parce que là, par exemple, s'il y a plantation d'arbres, ça pose pas de problème parce qu'on va avoir un trou qui est très très grand. Même s'il y a une pression forte après voilà, du chien dent qui va revenir vers la partie qui est dénudée. Mais pendant ce temps-là, les racines vont pousser. Mais le gros souci, c'est que là, si on met du petit avec du hyper puissant, quand je dis du petit, c'est de la courge et compagnie, des arbustes, c'est compliqué, quoi.
La seule zone du terrain moins envahie est le long du grillage du voisin, dans lequel trône un grand cèdre. J'ai
Ouais.
essayé d'y faire quelques plantations, telles que des petits fruits ou des courges, ou des légumes plutôt, hein, courges, courgettes, artichauts, mais rien n'y pousse correctement, rien ne s'y développe. La différence est flagrante avec d'autres zones du terrain où la végétation est dense et où les légumes poussent très bien. Est-ce que c'est le cèdre qui pourrait y être pour quelque
Bah,
chose?
je crois pas parce qu'il est quand même bien éloigné de l'espace.
Ouais.
Je vois pas pourquoi ça pose problème, quoi.
Donc ça peut pas être ça. Que me
Non.
conseilleriez-vous pour cette zone? Nourrir le sol, créer des bacs de culture, planter des espèces spécifiques, faire une mare? À nouveau, merci pour les idées. J'ai hâte de vous écouter.
Alors la mare, moi j'ai toujours oui, s'il y a possibilité, c'est quand même un point d'eau, c'est toujours intéressant. Voilà, surtout dans ce monde qui est un peu sec, quoi. Ça peut être une chose, mais là aussi, je bâcherai pour contenir que je trouve quand même assez puissante.
D'accord. Là,
Voilà.
tu pointes vraiment une grosse, grosse
Oui,
problématique.
et pour les petits fruits, je dirais qu'il n'y a jamais autant en principe d'herbe au pied. Hein. Faudrait quand même, si on le plante, il faudrait que la bande soit à peu près d'un mètre,
Bon. En tout cas, on va souhaiter
quoi. Ouais.
bon courage à Sandrine, une bonne bâche. Alors
Mais c'est
après,
vrai que si par exemple on pique le sol, c'est-à-dire mettre des piquets ou des branches ou des bâtons, de pouvoir faire 1 mètre carré, enfin de faire la longueur pour planter au niveau des petits fruits, après de décompacter le sol, d'enlever les touffes d'herbe, et après mettre ces touffes d'herbe dans un endroit, c'est pas mal de les jeter parce qu'il y a plein de bonnes terres qui va être, comme c'est un système racinaire dense, il y aura plein de bonnes terres qui sera dans les racines de ces herbes, quoi. Donc l'idéal, c'est de le garder, de le mettre sur un tas. Hein, voilà. De toute façon, après, le chien d'eau va faire concurrence au chien d'eau. Donc ça peut se faire simplement sur un tas. Mais ça vaudrait le coup d'enlever voilà, une bonne partie de ce chien d'eau sur un mètre de manière à de libérer un peu les petits fruits, quoi.
Bien. Je te propose de passer à la question de... je vais y arriver, pardon, de Jérôme. Ah bah, je crois que c'était Jérôme qui nous a interpellé sur Facebook d'ailleurs. Bonjour à vous, bonne année. Voilà, ça date du 1er février. Un appel à l'aide. Deux questions, j'ai écouté votre réponse. Donc je n'ai pas touché aux épines, mais... On parle des agrumes. Hein. Je suis passé en déplacement. Je suis parti en déplacement une semaine. Tout allait bien. J'ai pris soin de bien arroser, sans coupelle, sous les pots, ayant craint quelques gelées. J'ai donc couvert avec des voiles d'hivernage mes agrumes. Mais à mon tour, ce fut la cata. Et à mon retour, pardon, ce fut la cata. Que me conseilleriez-vous? Peut-on encore les sauver? Je pense qu'ils aient pris froid. Suivant vos conseils, ils sont placés contre un bardage plein sud. Donc le moindre rayon de soleil les réchauffe. Mais je suis près de Toulouse, donc les températures vraiment clémentes. Vu la saison, merci des conseils que vous pourriez me donner.
Bah, quand je les ai vus là, par rapport au bois que j'ai vu, ils vont en démarrer, hein, il n'y a pas de souci.
Il y en a un qui est relativement dégarni, hein. Il n'a plus de
Dégarni, mais
feuilles.
après il va redémarrer du pied, hein, il n'y
Il
a
n'y a
pas de
pas une
souci.
question de peau aussi, Eric, parce que quand tu regardes la
Oui, là,
deuxième
les peaux sont un
photo,
peu petits, hein, c'est
il est petit.
justement.
Voilà. Donc.
Les voilà, c'est les peaux, s'ils pouvaient être le double en volume.
Ouais.
Ça me semble intéressant, et puis mettre de la terre jusqu'au même niveau, parce que là, de toute façon, là, ça va manquer. Et puis, faut pas oublier que la pression des températures, du froid, enfin des conditions extérieures, est beaucoup plus forte, et plus forte
Quand t'as un petit pot.
dans un petit pot, quoi.
Bah oui, on est
Donc,
d'accord. Hein.
voilà, donc ça me semble, pot, il faudrait voilà, passer au pot à carré, voilà, souvent l'espèce de bloc, là. Qui fait 50 sur 50 sur 50, ça me semblerait une bonne chose. Où là, on peut plus facilement mettre un plateau avec une roulette. Je vous invite, parce que je viens de le faire, d'aller chez Emmaüs ou type Emmaüs. Hein. Voilà. Et des fois, ils ont les opérations voilà, de vente de petits matériels comme ça, type roulette au poids. Franchement, là, j'ai acheté des roulettes de haute compétition. Mettez une planche au-dessous. Après vous déplacez, c'est quand même plus facile voilà, que des fois un pot en... J'aime bien hein, les pots en faïence, tous les trucs en briques. Mais il faut savoir qu'il y a des possibilités de mettre des roulettes, c'est pas mal quoi.
Bien. J'ai
Non,
acheté
mais là,
justement. Ouais.
faudrait lui redonner à manger globalement.
Faut les
Et
rempoter, quoi.
ouais, il faut le rempoter et puis vraiment voilà, qu'il y ait un
Avec
peu plus
un
de système racinaire.
bon terreau.
Voilà.
Justement, j'ai acheté ces agrumes dans une bonne
Oui, ça.
pépinière locale de bonne renommée, mais ils m'ont conseillé de pas toucher les pots avant la fin de l'hiver. Pourtant, on voit bien les racines, donc ils le disaient.
Ouais.
Hein. Quels sont vos conseils? Je touche pas comme ils nous conseillent, ou est-ce que je rempote? Juste la saison,
Oui, bah là on est plein dedans, hein, faut y
t'en
aller
as parlé
maintenant.
il y a 2 secondes. On
Ouais.
peut là maintenant, ça y
Oui,
est.
c'est maintenant, et puis même pour les plantes d'intérieur, allez-y, hein.
Bon, voilà.
Février, février, mars, c'est la bonne période, hein.
Voilà Jérôme, en tout cas, Jérôme et Sandy qui nous
Voilà.
ont écrit. Donc voilà Jérôme, on a pu repêcher votre question pour la traiter cette semaine. Florent de Haute-Savoie, bonjour à vous deux. Merci d'égayer mes fins de semaine et de continuer à nous faire rêver à nos potagers tout au long de l'année. Dans ce redoux de fin janvier, j'ai quelques questions pour la saison à venir. J'ai un prunier dans un angle de mon potager, transplanté dans le jardin. Et depuis le jardin de mes parents, début 2023, il n'a quasi rien donné en feuilles l'année dernière. Est-ce que je peux quand même avoir un espoir pour cette année?
Bah, le problème c'est que là il y a eu des années complètement dingues quoi. Donc le repercement, enfin la pousse était compliquée. Voilà, enfin on peut espérer, mais il faut quand même vérifier ici et là avec le coup d'ongle pour savoir si le bois est pas mort, quoi.
En gros, on gratte un peu, on gratte si c'est vert,
Ouais,
c'est ça? Ouais.
voilà. Et quitte à redescendre un peu la masse pour enlever de la masse, je dirais, de bois, pour que ça puisse redémarrer sur des nouveaux bourgeons, quoi.
Donc, quand tu dis c'est rabattre
Oui, rabattre les branches.
les branches, en
Voilà.
gros, une taille un peu sévère pour qu'ils
Ouais,
puissent reprendre, c'est ça?
pour ça puisse redémarrer. Sauf s'il y a du vert jusqu'en haut, il n'y a pas de souci, quoi.
Bon, donc voir
Bah,
acte
quand vous
2.
coupez une branche et si vous voyez qu'une partie de la branche dedans est brune, qui peut être des fois 50%, c'est voilà, faut aller jusqu'à temps que la branche soit complètement verte.
Bon, donc on taille
Oui.
J'allais dire en vert inversé, c'est-à-dire qu'on arrive jusqu'à
Voilà,
ce que
c'est
ça soit
ça.
vert. Hein. Tout ce qui est sec, on peut
Voilà.
enlever et ça, on peut le faire
Parce que des fois,
maintenant.
le problème, c'est que quand on déplante un arbre, le souci, c'est qu'on ne prend pas, nous, assez de racines. Parce qu'on croit qu'il est petit, mais il n'est pas aussi petit que ça. Et notamment le système racinaire. Et on en enlève pas mal. Et au bout d'un moment, quand on le met en situation un peu sèche, quand je dis en situation, c'est pas l'endroit qui est sec, mais après, quand il a, voilà, les températures étaient assez chantes, je veux dire, ben, ça dessèche l'arbuste et il manque un petit peu de reprise, quoi.
Je voudrais aménager une petite parcelle de pelouse en massif de fleurs et aromatiques. À partir de quand est-ce judicieux de travailler la terre? Alors, il précise, hein, Florent, il est en altitude, 750 mètres d'altitude en Haute-Savoie et on avait encore de la bonne neige il y a 10 jours.
Oui, il a le temps là encore.
Voilà, j'allais dire, Florent, s'il y en a bien qui peut lever le pied, c'est vous.
Ouais,
Dernière question.
ça n'empêche pas qu'il peut mettre une bâche sur le sol en attendant, quoi. Voilà.
Ouais, parce que ça
Ouais.
évite effectivement que quand il pleut, ça s'est
Oui,
ressuyé plus
ça
facilement, quoi,
s'engorge
c'est
et puis
ça.
ça réchauffe le sol aussi s'il met une bâche noire, par exemple. Et puis ça permet tout de suite de piqueter le sol pour savoir les endroits où il veut le faire. Comme ça lui évite, par exemple, de marcher dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tassement et le fait de tasser, donc ça limite la porosité. Donc ce n'est pas un facteur, je dirais, positif pour le sol où on veut planter.
Ouais.
Ça permet aussi d'avoir un regard, déjà, même si ce n'est pas planté, sur l'espace qu'on veut avoir pour sa plante aromatique. Mais déjà, de piqueter le sol permet déjà d'utiliser les chemins, quoi.
Bien. Dernière question. J'ai taillé et transplanté un saule marceau qui avait spontanément poussé au milieu de ma pelouse. Cette année, il se porte bien dans son coin plein est, mais tellement que je me demande que s'il faut entretenir en le taillant. Que me conseilleriez-vous et comment va-t-il pousser si je le laisse tranquille?
Bah, il va être un peu foufou, hein, mais c'est un bel arbre, hein. Alors, il y
Ouais.
a deux solutions sur les saules, soit on peut le faire en tétarisation, c'est-à-dire en tétard, une
Sol
fois qu'il a,
tétard, rendez-vous sur le blog.
voilà,
Ouais.
sur le tétard, ou soit on le laisse pousser et puis on enlève ce qui est de trop, quoi. Mais moi, je trouve qu'un saule qui n'a pas besoin d'être taillé, c'est très joli, quoi.
Et puis on n'oublie pas le adage, hein. Si un arbre doit être grand, il doit être grand.
C'est ça, tout à fait.
C'est ce que tu nous dis.
Voilà.
Florent, rendez-vous sur le blog. Il y a un article
Ouais.
sur la taille tétard, justement, que tu avais fait, Eric, il y a
Non, sur le marceau, c'est un bel arbre hein, qui est
quelques
très
mois.
grand. Hein. Mais voilà, s'il y a de la place, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà, ça sent bon, ça fait du beau feuillage, le bruit est agréable aussi. Enfin, je vais pas faire de la poésie, mais ça sent bon.
Bon, bah parfait. Encore un grand merci pour tous vos conseils, accompagnement et longue vie à votre si plaisant podcast et rendez-vous la semaine prochaine en librairie, Florent, comme d'ailleurs tous nos auditeurs. Bonjour à vous deux, nous dit France. Merci pour vos podcasts très instructifs et aidants. Voici deux questions. J'ai une butte recouverte de valériane que je n'ai pas rabattue à l'automne. Puis-je encore le faire?
Oui.
Ok. Tac, c'est
Non,
carré.
mais je veux dire, la valériane, c'est quand même, voilà, c'est super beau. Je conseille aux gens d'en mettre. Hein, voilà, c'est une fleur qui est super intéressante. Et puis, même des fois dans le secteur, quand il fait beau, elle ne dépérit pas. Hein, ça fait plein de matière. Hein, moi, je la rabats sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et tous les ans, j'en ai, voilà, j'ai une blanche, une violette, une rose partout, là, qui est vraiment, enfin, violette. Voilà, violet rose, mais c'est vraiment super quoi, hein. Franchement, des
Bien.
grandes bestioles, c'est bien.
Je vous avais interrogé fin décembre sur un pommier présentant des touffes duveteuses blanches à de multiples endroits, laissant présager la présence de pucerons
La Niger.
la Niger, pardon.
Ouais.
N'étant pas sur place, je n'ai pas pu réaliser le badigeon à l'huile blanche que vous m'aviez conseillé. À l'observation, il n'y a quasiment plus de duvet sur les branches.
Ouais.
Est-ce toujours nécessaire d'appliquer l'huile blanche?
Non, il faut être en veille parce que faut pas oublier que le puceron la Niger a aussi de très nombreux prédateurs. Et tous les conseils qu'on donne un petit peu décapants, hein, dont le conseil qu'on vous donnait là, c'est quand on ne sait plus quoi faire. Mais peut-être que les pucerons là ont été bouffés par le prédateur à proximité, quoi. Par contre,
Bien.
s'il y en a eu, on risque d'en avoir encore. Donc,
Donc faut surveiller.
surveiller, quitte à faire simplement une petite pulvérisation ou brosser l'endroit quand on voit arriver les pucerons la Niger.
Faut-il le faire sur toute la surface? Et les bourgeons, tu viens d'y répondre. Je
Bah
vous
voilà, alors
remercie
en principe,
infiniment
si on
pour
fait
tous
une
vos
huile blanche,
conseils.
c'est sur toute la surface, hein, il faut bientôt le faire en principe. Mais si vous dites que vous ne voyez plus rien du tout, voilà, c'est pas. Mais en veille.
En veille, restez en veille, France. Bonjour pour votre super podcast, nous dit Cécile. Je suis en Normandie, en plein pays d'Auge, et je souhaite aménager un long talus en bordure de mon terrain. Il est essentiellement ombragé et la terre est très argileuse. Actuellement, il y a quasiment des orties et quasiment exclusivement des orties qui y poussent. Quel couvre-sol me conseillez-vous avec peu d'entretien si possible?
Ça, c'est les grandes questions
L'ortie.
souvent sur mesure qui sont toujours très compliquées à répondre. Bon, s'il y a de l'ortie, c'est qu'il y a de l'azote, donc c'est des sols qui sont un peu poussants quand même. Donc voilà. Redis-moi le début, c'était quoi pour faire du jardin? Simplement une bordure?
Mais simplement un long talus en fait qui est en bordure du terrain et c'est un terrain argileux et ombragé.
Ben, moi comme ça, mais alors vraiment, voilà, c'est un ressenti. Moi, je le verrais bien en mini saule têtard, hein, faire des touffes avec, mais voilà, c'est une inspiration du moment là, hein, avec de l'osier. Hein, parce que, comme on m'arrête pas de me dire en ce moment que la production d'osier est très faible en ce moment, c'est pour ça que j'y pense. Sinon, vous avez voilà, pas mal de plantes à bois de différentes couleurs, hein, qui peuvent être, voilà, qui peuvent être super intéressantes, hein.
D'accord.
C'est compliqué. Moi, ce que je trouve qui serait vachement bien, c'est que l'auditrice, c'est une auditrice, hein, elle
Oui.
nous envoie une petite photo de la situation,
Ah ben voilà, tiens.
comme une auditrice nous avait fait, parce que là, ça nous permet de voir ce qu'il y a derrière, ce qui est devant. Voilà. Moi, tout de suite, comme ça, je verrais avec du saule, un peu de l'osier, du cornouiller masse, du cornouiller sanguin, voilà.
Question, Eric, je reviens sur la notion de couvre-sol parce que tu nous parlais de serpolet. Bon, ça, c'est pas du tout là, hein,
Non, c'est pas du tout la
pas du tout
situation.
là, hein, tu nous parlais plutôt de plantes, d'arbustes à planter. Est-ce qu'en couvre-sol, on peut considérer aussi que par exemple des prairies fleuries, spécialement justement sur ce type de sol, peuvent faire office de couvre-sol
Bah, quand il y a
parce que
de l'ortie
finalement.
derrière, pour limiter ça, c'est pour ça là, je montais le couvre-sol. Là, il était, ça couvrait le sol, mais ça déjà une plante un peu plus grande, quoi.
Ouais, donc
Parce que quand il y a de l'ortie et compagnie, c'est un sol qui est puissamment, voilà, il y a de la puissance, hein, voilà, surtout si on me dit c'est recouvert d'ortie et compagnie. En plus, si c'est des orties qui peuvent monter à jusqu'à 1 mètre pendant le début de saison, donc c'est pour ça que je pensais déjà avoir de l'arbrisseau. Voilà, moins d'1,20 m, parce que, mais de la prairie fleurie, par exemple, même sur des zones humides, voilà, sur des secteurs comme ça, il n'y a rien qui va pousser, parce que l'ortie, elle sera tellement présente que faut
ça,
pas attendre.
c'est le point en fait. Ce que tu nous dis là, c'est en fait c'est l'élément bloquant. C'est ces questions
Oui, voilà,
de d'ortie, quoi.
c'est une zone qui est très riche en azote, hein, qui est poussante. L'ortie, bon, c'est facile à enlever, hein, c'est pas du chien-dent comme l'auditrice précédente, hein, ça n'a rien à voir.
Oui.
C'est un sol qui va être très améliorant, donc le fait de lui mettre une plante dessus qui va provoquer de la concurrence, bah, au fur et à mesure, quitte à la couper après, quand elle commence à couper, bah, on la laisse sur le sol. Ça va améliorer la qualité du sol. De toute façon, l'ortie ne pense qu'à une seule chose, c'est installer une autre plante à sa
D'accord.
place. Voilà. Donc elle prépare le terrain. Hein. Voilà, pour passer la ronce, pour placer le sureau, pour placer des plantes comme ça, un peu plus de zones humides, de zones avec un sol un peu compact. Hein, souvent, comme il est argileux, il doit être compact. Voilà, c'est pour ça que je pensais à une plante un peu au-dessus, quoi.
Bon,
Mais les
bien.
couvre-sols sur ces situations-là, c'est compliqué, quoi. Mais que l'auditrice nous envoie une photo, c'est des fois très très simple, des fois en situation, on dit ah bah oui tiens, parce que là c'est toujours les situations qui sont très compliquées de répondre. Hein. Une photo, on aime bien, nous.
Bon, parfait. Cher Brice et cher Eric, j'ai découvert depuis peu votre podcast. Je le trouve très intéressant avec plein de conseils très concrets. Bravo pour ce beau travail. Alors, ju juste un petit peu, et c'est Frédéric qui nous écrit un message. On va juste repréciser. Vous voyez que le contenu aussi est construit en fonction de ce que vous nous envoyez. Et là, les exemples très concrets, on ne les sort pas du chapeau, on les sort parce que on a justement cette
Oui, c'est ça.
communauté.
Et voilà. Et on préfère ne pas répondre vraiment à la question, voilà, parce que souvent c'est que du ressenti. Moi, j'ai une image de votre jardin quand vous le racontez, quand Brice le lit, qui est peut-être pas forcément la réalité, parce que moi je le ressens comme ça. Donc c'est pour ça que des fois une photo, on dit ah bah oui, mais avec là, ce serait, on pourrait mettre ça.
Donc, why not pour les
Voilà.
photos? Bon, pour le coup, là, c'est bien, nous avons une
Ouais,
photo.
ouais, ouais.
Question sur une taille d'une haie de lierre. Mon jardin est séparé du voisin avec une haie de lierre très dense. Hein. C'est un lierre commun, un vert foncé. Le mur étant épais, le lierre non taillé pendant très longtemps. Celui-ci a fini par pousser assez haut en faisant des vrais troncs. Le voisin se retrouve dans un jardin sombre sous cette vraie muraille et serait content qu'on lui fasse un peu de lumière en réduisant d'au moins 1 mètre la hauteur. Et je le comprends. Mon jardin est moins impacté car il est au sud et reçoit de la lumière. Mais c'est une haie très riche avec des oiseaux et des
Ah
abeilles.
ouais, c'est clair, hein.
Il y a des fruits en ce moment.
Ah oui.
Quelle serait la bonne saison pour le tailler? Avant février-mars, pour les oiseaux, je suis dans le sud de la Haute-Garonne et les saisons arrivent très tôt ces dernières années, mais au risque de détruire leur habitat et leur garde-manger pour la fin de l'hiver, y a-t-il des méthodes pour tailler sans être très et trop destructeur de cet espace protégé à un moment où nos oiseaux se raréfient? En gros, comment feriez-vous? Merci d'avance pour vos conseils avisés. Signé Frédéric.
De toute façon,
Vraie
le
question.
lierre, il y a que des bonnes périodes.
Ah.
C'est que ça soit avec fruits ou sans fruits, avec fleurs ou pas de fleurs. À un moment, c'est un lieu de nourriture pour les insectes, les autres, c'est pour les oiseaux. Après, c'est un lieu de. C'est le gîte et le gîte surtout, puis des fois, c'est le couvert. Moi, ce que je ferais plutôt, c'est de le faire en plusieurs années. Voilà.
D'accord,
De
donc
dire avec le
on.
voisin, je dis voilà, on a bien compris ton problème. Ce que je te propose, c'est que cette année, on fait un tiers et pendant 3 ans, on fait 3 tiers. Comme ça, on diminue le volume. Ça va permettre au lierre de se reconstituer et après de le contenir tous les ans un petit peu pour éviter qu'il redémarre sur des hauteurs très importantes.
Donc l'idée c'est un plan triennal, ça
Voilà,
va
c'est
dans
ça.
le métier, un
Moi,
plan
de le faire
triennal de
sur trois.
réduction de l'espace.
Voilà, quand je dis 3 ans, ça peut être 2 ans, hein, tout dépend de la longueur du mur, de
Bien
la
sûr.
longueur. Mais voilà, je trouve que
En
ça
gros, ça évite
serait.
de faire la révolution tout de suite.
C'est ça, exactement. Et puis des fois, à bout d'un moment, c'est sûr que pour la biodiversité, c'est super intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'on est vit aussi entre humains, quoi, hein.
Ouais.
Mais on peut faire ça d'une manière plus calme. Ça calme tout le monde et ça permet de restructurer l'ensemble. Des fois, même sur un mur, un mur qui devient un peu plus bancal parce que le lierre est tellement puissant que voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, ça permet de le calmer et ça permet de juger. Moi, je le ferai voilà, incessamment sous peu, quoi, hein, de manière que la nouvelle pousse, quand vous allez tailler, puisse redémarrer, quoi.
Calme ton lierre, mon ami, c'est ce que tu
Voilà.
nous proposes,
Et
mais sur 2 ans.
le broyat de lierre, bah, je le laisserai au pied, quoi.
Bon, et on va rappeler aussi que le lierre est bon, bien sûr, alors sur les
Oui.
arbres, sur les troncs, hein, jusqu'au niveau des charpentières, tu le
Ouais.
répètes suffisamment, et que le lierre se bouture, au fait, Eric?
Oui, ça se bouture très facilement. Là, pour ceux qui veulent mettre du lierre, là, vous prenez des pousses de l'année 2023.
Ouais.
Voilà, vous en prenez. Moi, j'aime bien prendre le plus long possible, hein, une 50 cm, et vous mettez 20-25 cm dans le sol. Comme
Bon,
ça, vous avez
et ça
100% de
part.
réussite, hein.
Bien. Vous qui nous écoutez, écrivez-nous contact@monjardinbio.com évidemment pour nous envoyer vos questions, vos réactions, vos commentaires. Et puis on tâchera de répondre
Oui.
comme on le fait depuis des années.
Et là, je le répète, hein, surtout envoyer une photo, même pour le lierre, par exemple. Là, voilà, aujourd'hui, ça va tellement vite de rendre. Pour nous, c'est beaucoup plus simple parce que Brice ou moi, souvent, on se fait une idée par rapport à vos. Des fois, c'est une fausse idée. Hein, voilà, on dit, tiens, on imagine que c'est comme ça. Et là, ça nous permet de dire, voilà, parce que la notion des fois de beaucoup haute. Il y a des gens, des fois, et ça dépasse de 20 cm, ils sont complètement en panique parce que le voisin, il est en panique parce qu'il dit, voilà, ouais, il y a du lierre, il va me submerger. Ou il voit passer un rat ou une couleuvre, ça y est, il est envahi par des boas. Ou pour un. Donc voilà, c'est toujours. Ça nous permet de mesurer vraiment, d'avoir la vérité vraie, quoi.
Bon, Eric, un peu de
Ouais.
chiffres au jardin, tu nous proposes une
Ouais,
leçon
alors
de
ça.
choses
Alors.
mathématiques.
Ouais, voilà, donc sachez que bon, il y a le blog, ça vous permettra de revoir ces chiffres. Hein, c'est pas très sexy. Quoique, voilà, ça peut être super intéressant quand des fois le langage de l'autre, on le comprend mieux. C'est ça qui est important.
Alors justement, je te propose de commencer par des choses très concrètes, parce que ça, que vous achetiez quelque chose, que vous soyez, alors en général, quand on est dans le milieu agricole, on comprend, bien sûr, un are, un hectare, mais est-ce que tu peux nous redonner
Oui.
certaines grandes lignes? Déjà, un are, c'est combien?
C'est 10
C'est
fois, alors
quoi?
donc c'est 10 mètres fois 10 mètres, hein, donc ça c'est important.
Ok.
Et puis l'hectare, c'est 100 mètres fois 100 mètres. Voilà.
Un hectare, c'est combien d'are?
Bah, c'est 100 ares.
100 are font un hectare.
Voilà.
10 mètres carrés, ça donne?
Bah, 10 mètres carrés, c'est. Tu le veux en quoi?
En art.
En ares, bah,
Ouais.
10 mètres carrés, c'est 1/10 d'ar, quoi. Hein.
Bon. Et
Parce
donc
que.
100 mètres carrés, c'est un art.
C'est ça. Donc, c'est facile
Voilà.
des fois de le mesurer, des fois sur un jardin potager, comme ça, des fois une parcelle, on dit ouais, on a que 2 ou 3 arbres. Bah, 2 ou 3 arbres, c'est
C'est
quand même un
200-300
terrain.
mètres
Alors, des fois,
carrés.
si on le met non pas. Des fois, je conseille toujours de mettre un jardin pas en surface, parce qu'à quelqu'un, on lui dit 100 mètres carrés. Bon. Mais si on lui dit que c'est un jardin qui fait 10 mètres sur 10 mètres ou 5 mètres sur 20 mètres, c'est. Voilà, ça, on le voit beaucoup mieux. On voit, c'est marrant à dire, on aime bien les volumes. mais on arrive plus les volumes, mais les surfaces, on les voit bien aussi, mais des fois, il faut revenir à l'unité parce qu'on se rend bien compte à peu près qu'est-ce que ça fait à peu près un terrain de 10 ou 20 mètres ou un terrain de 10 mètres ou 5 mètres de large. Et là, d'un seul coup, ah oui, quand même.
Bien, pour remettre tout ça en perspective. Alors, tu
Voilà.
nous proposes aussi un petit peu une réflexion autour des massifs, par exemple en
Oui,
rond. Et là, tu
c'est
vas nous
ça parce
sortir
que.
pi, c'est ça?
C'est ça parce que des fois, bon, souvent un massif, c'est plutôt une forme arrondie, alors qui peut être un rond parfait ou un losange. Hein. Peut-être un losange, voilà, des différentes formes. Mais souvent le rond, ben, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se calcule, et notamment pour trouver des fois la quantité de terreau ou de tourbe, je veux dire. Dis rien, Brice, là, ce que j'ai dit
Non, non,
tourbe.
je, non, 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 non,
Ah non, je croyais.
je te laisse aller, puis je laisse
Ah, je
aller
croyais
à la
que.
réflexion, et après je
Non,
contre-argumente.
d'accord, très bien. Donc, par exemple, vous achetez du terreau sans tourbe, c'est ce que c'est super
Tu vois, tu
intéressant.
corriges tout seul,
Bah, je
c'est
me corrige tout
bon.
seul parce que j'avais dit une connerie. Donc, si vous achetez du terreau sans tourbe ou si vous achetez voilà, de la
De la
terre dite
tourbe
de
sans
bruyère
terreau, oui, non, mais
mélangée
oui.
avec du terreau, voilà.
Oui.
Par exemple, ben, c'est vrai que vu le prix, quand même, c'est toujours intéressant de bien connaître, ben, je veux dire, la surface parce qu'il ne faut pas oublier que le volume. C'est la hauteur multipliée par la surface. Donc la surface d'un massif rond, entre guillemets, c'est rayon fois rayon multiplié par 3,14. Ça, c'est important.
Et 3,14, c'est fameux pi.
Ce fameux pi. Voilà. Et donc vous faites ça. Alors après, c'est pas la peine d'aller très très loin, savoir combien de chiffres après le 3. Hein, voilà, s'il y en a déjà deux, c'est déjà bien. Hein. Le périmètre aussi, c'est super intéressant pour, par exemple, pour. Quand vous voulez acheter une bordurette, voilà, ça aussi, elle se dit, oh, tiens, j'ai un rouleau, est-ce que ce rouleau, et donc pour le périmètre, c'est bien rayon plus rayon multiplié par 3,14, voilà. Ainsi,
Bien.
rayon fois rayon, et ainsi de suite. Alors après, là, c'est un point qui est beaucoup plus important, c'est la notion de récupérateur d'eau, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les récupérateurs d'eau, vous avez toute une politique qui est faite, justement, il y a des secteurs, par exemple, où ils vous financent votre récupérateur d'eau à condition que plus aucune pluie pluviale, c'est-à-dire la pluie, aille à l'égout. Donc c'est intéressant de récupérer, d'avoir un récupérateur. Mais souvent, quel est le
Le
volume de
volume,
votre
c'est
récupérateur?
ça.
Voilà. Alors c'est sûr que si vous avez le traditionnel cube, alors c'est souvent 1000 litres, hein, voilà. Hein, donc là, c'est voilà, vous le récupérez, c'est gratos. Attention, quand vous en récupérez un plutôt de l'agroalimentaire, je dirais non toxique, hein, parce qu'après, il faut le rincer,
Ouais.
c'est pas top
Ouais. Si
top.
vous avez l'huile de vidange dessus, évitez quoi. Enfin, malgré tout ce qu'on lit.
Voilà.
Puis attention aussi sur le bon coin quand.
Ouais, c'est
Déjà,
ça.
ça coûte un peu, enfin voilà, hein, mais c'est
Et,
toujours moins
voilà.
cher que neuf. Et puis après, regardez aussi évidemment combien, enfin ce qu'il y avait dedans et mettez le nez dedans parce que
Voilà.
on est d'accord.
Alors souvent, bah justement, on vous propose non pas des mètres, mais souvent des litres. On va dire, alors des fois on se dit, mais quel est le volume de ce que j'ai acheté? Donc par exemple, si je prends la largeur de votre tour, je dirais alors, on peut appeler ça une tonne à eau, mais votre récupérateur d'eau, s'il a une largeur de 30 cm et une longueur de 60 cm, hein, donc ça c'est la base. Et si la hauteur est de 2 mètres, il suffit de faire voilà, 30 cm fois 60 cm fois 200 cm. Ça vous fait un volume de 0,360 mètres cubes, donc un tiers de mètre cube. Et n'oubliez pas que ça, on peut le transformer en litres. Et c'est beaucoup plus simple parce que souvent, quand on vous le vend, on ne vous le vend pas en volume, je dirais en mètre cube ou en 10 mètres cubes,
Mais en
mais on le
litres.
voit en litres.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et pareil pour les compostiers. Hein. Quand des fois, est-ce que je vais acheter un compostier de 650 litres, 350 litres ou de 1000 litres, quoi. Donc ça vous permet des fois de voir déjà est-ce que c'est le bon volume qu'on vous vend. Et donc pour savoir que là, dans ce cas-là, le 0,360 mètres cubes, bah, ça vous fera 360 litres. Donc est-ce que c'est beaucoup? Non. Un tiers de mètre cube, hein, 360 litres, c'est un tiers de mètre cube. Bah, ça fait pas non plus, voilà, ces fois un ou deux arrosages, c'est vite fait, c'est déjà pas mal, mais il pleut pas tous les jours. Hein. Alors c'est pareil pour l'histoire, si vous avez des fois des tonnes à eau qui sont plutôt en forme de rond, hein, voilà. Donc là, vous avez utilisé plutôt le pi, mais c'est dans le même CM situation.
Et puis on va rappeler que le mètre cube est l'unité de facturation de l'eau
Ouais.
potable qu'on peut utiliser au jardin, hein, voilà. Donc 1 mètre cube qui vaut entre 3 et 5, 6 euros, ça dépend, hein, le territoire. Mais globalement, hein, on est dans la fourchette, 3 c'est vraiment très bas, et là on est plus 4, 4, 50, 5, 6, bah, c'est 1000 litres. Voilà.
Ouais,
Donc
voilà.
ça permet juste aussi des fois de réfléchir à la rentabilité de son truc, même si on est les premiers à dire récupérer de l'eau de pluie, c'est bien mieux que d'utiliser de l'eau potable, traitée, captée, acheminée. Voilà. Mais concrètement, dans 1000 litres, ça vaut entre guillemets, et c'est peut-être tout le souci, mais ça vaut entre guillemets que 3, 4, 5 euros. Même si on sait encore une fois que l'eau pluviale est largement mieux parce qu'il n'y a pas de calcaire, parce qu'elle est température ambiante, ça ne va pas cramer
voilà, et puis, il faut pas
les
savoir,
légumes, etc.
Voilà. Et puis l'eau qui tombe, on va le voir tout de suite là, l'eau qui tombe, il ne faut pas oublier qu'elle est beaucoup plus efficace que votre arrosage, même si vous l'avez récupéré avec un récupérateur, tout simplement parce que l'eau, il pleut partout. Voilà.
C'est ça.
Même
alors
aux endroits
justement,
où vous n'arrosez pas. Donc c'est ça,
transition parfaite, Eric, parce que on est tous équipés normalement, tout bon jardinier, un pluviomètre.
Voilà.
Bon, donc je mets mon pluviomètre et ça me dit, oui, bah, j'ai plus 3, il a plus 10 mm. Bon,
10
mm, ça veut rien dire, Eric.
Ouais.
Alors,
non, parce qu'on fait souvent avec le doigt, déjà, quand on fait avec le doigt, il a plus 10 mm. des fois, on fait plutôt soit 1 mm ou 2 ou 3 cm hein, avec le doigt, donc ça veut absolument rien dire. C'est pour ça qu'il est toujours plus marrant de le transformer en litres par mètre carré. Parce que des fois, on a des dalles qui font 50 sur 50. Donc, sur ces 4 dalles, globalement, qui font 1 mètre carré, combien d'eau qui est tombée, hein. Donc, ça veut dire que globalement, quand il pleut 1 mm, c'est qu'il a plu 1 litre par mètre carré.
Quand il a plu 20 mm, il a plu 20 litres sur mes 4 dalles. Là, sur mes
4 dalles. Donc là, d'un seul coup, on dit « Ah ouais, quand même !»
Sachant que on sait que au-dessus de allez quoi 7-8 mm, c'est pas trop la peine d'arroser. En
non,
dessous, en
non.
plein été, bah, le lendemain, il faut peut-être quand même mieux arroser. C'est ça,
c'est ça,
c'est
voilà.
Ça aussi. Ouais.
Et, là, et puis, et toujours aussi, sur des, si vous mettez même des produits en autorisant l'agriculture biologique, sachez souvent que ces 20 mm, c'est pour dire, bah, tiens, on vous avait traité, mais s'il pleut entre 15 et 20 mm d'eau, ça va lessiver ce que vous avez traité, donc il faut recommencer.
On pense par exemple à un traitement à base d'argile. On sait que l'argile se lessive effectivement au bout de 15-20
ouais.
mm.
Voilà.
Voilà, là, on peut se dire, après un gros orage, on peut. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même perception. Des fois,
non,
on
non,
dit,
c'est...
oula, il pleut beaucoup, mais au final, il n'y a rien. Bah oui.
Oui, c'est ça. Quand il a plu, quand vous voyez qu'il a plu 3 mm, bon, bah, ça fait 3 litres sur cette dalle. Hein. C'est pas mal. Hein, c'est deux bouteilles d'eau. Hein, parce que ça aussi, j'aime bien le transformer en bouteille ou en arrosoir. Pareil, c'est 20 mm. Quand vous dites, bah, c'est comme si j'avais versé deux arrosoirs d'eau. Bah ça c'est voilà, ça c'est quelque chose. Donc voilà, pensez le fait de bien comprendre la différence entre les millimètres et les litres par mètre carré, c'est toujours intéressant de des fois le transformer par mètre carré, comme ça on se rend bien compte.
Mm-hmm.
En sachant que quand vous allez arroser, vous allez mettre peut-être 10 litres, mais ça sera sur une petite surface. Alors des fois on dit, j'ai mis tellement d'eau et pourtant il a plu moins. Et c'est mieux. Pourquoi ? Parce que justement, comme vous avez arrosé qu'à un seul endroit, à une petite surface, le fait que l'eau, vous allez l'arroser, la pluie va tomber partout, bah même si il a plu peut-être 2-3 fois moins, mais c'est beaucoup plus efficace que votre arrosage, parce que justement, l'eau, quand vous allez arroser, bah, ça va aller vers les endroits qui sont secs. Donc, globalement, vous n'allez pas mettre les 10 litres comme prévu, mais peut-être que 3 litres, parce que le reste aura été sur les côtés, quoi. Donc, voilà.
Rien ne vaut la pluie, ça
c'est
on
ça.
Sait, on est d'accord.
C'est pour ça que tous les aménagements, alors je veux dire bien sûr pas à l'échelle de la maison, du quartier, hein, mais là c'est du terroir, d'un département et autres, qui va favoriser justement ce captage de pluie, parce qu'on va créer le cycle de l'eau grâce à la végétalisation et la couverture du sol, bah, fera qu'on aura des pluies intense, mais pas des pluies qui vont être destructrices, parce que le sol ne sera pas tenu par la végétation, et il y aura ce fameux cercle vertueux de l'eau qui va permettre d'arroser en continu, quoi. Voilà.
Alors on va refermer le chapitre de l'eau et de la pluie, hein. Je ne sais pas si
voilà.
Tu veux rajouter quelque chose, Eric.
Non.
Je vais revenir sur les leçons de mathématiques appliquées, comme on dit, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais là concrètement, voilà, si on n'était pas bon en maths comme moi à l'école, eh ben, on sait que ça, pour le coup, ça peut tenir. Alors tu me disais avant de préparer cette émission, tu me taquinais sur l'angle droit.
Ouais.
Alors là-dessus, tu as une technique
Ouais,
infaillible.
qui marche à 300% et qui est toujours utilisée, c'est de savoir si quand on a une forme géométrique et qu'on cherche à avoir un angle droit, c'est-à-dire à 90 degrés, est-ce que cet angle est vraiment droit? Alors le plus simple, c'est il suffit de mesurer la partie qui est du côté de l'angle et de l'autre côté. Donc il faut mesurer 3 mètres d'un côté et 4 mètres de l'autre. Et quand on réunit les deux points extérieurs, ça doit faire 5 mètres. Voilà. Donc c'est 3, 4, 5 pour faire simple.
Et
Donc
donc
3,
ça.
l'angle, après 4 mètres, et après entre la partie haute et la partie basse, ça doit faire 5 mètres.
Voilà. Et donc ça, évidemment, bah,
Oui, c'est
après on fait un produit en
Pythagore,
croix.
hein.
Hein. Oui, mais on fait un produit en croix. C'est-à-dire que 3 mètres, que ce soit 3 mètres, bah, ça peut être 1,50 m, l'autre 2 mètres,
Ouais,
et
oui,
puis
voilà.
l'hypoténuse 2,50 m, quoi. Évidemment, ça
Oui,
s'adapte.
voilà, c'est toujours intéressant parce que là, et ce qui est intéressant, on n'est pas obligé de le faire en mètres. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de le faire, quelqu'un, s'il veut faire une parcelle, bah, je dis, voilà, c'est trois manches de râteau d'un côté, quatre manches de râteau de l'autre, et ça doit faire cinq manches de râteau de l'autre côté. Comme ça, l'unité n'est ni le mètre ni le centimètre, l'unité, c'est le manche de râteau. Pratique.
Bien.
Et ensuite,
Et oui.
oui.
Non, non, vas-y. Et alors, j'essaie de trouver une transition. Tout à fait.
Mais
L'hiver n'est pas fini,
une
Eric.
transition qui est marrante et pas austère.
Oh, très joli.
Ah
Mais Eric, nous ne sommes pas à la fin de l'hiver. Certains de nos auditeurs se chauffent au bois. Mais tiens, Eric, tu aurais pas un calcul sur le chauffage au bois?
Oui, alors ça c'est important sur le chauffage au bois parce que combien de fois pour ceux qui démarrent dans le chauffage au bois, on dit ça y est, voilà. Ça m'étonne pas, j'ai commandé du bois, j'ai commandé 5 stères de bois, bien sûr, on en a livré beaucoup moins. Voilà.
Bon.
Alors ça c'est, il faut se dire qu'en forêt, 1 stère de bois égale 1 mètre cube. Donc ça c'est facile à calculer, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, parce que les bûches font 1 mètre. Mais comme les bûches sont coupées, je veux dire grossièrement, hein, c'est après la scie, pour faire simple, ou la tronçonneuse, enfin surtout la tronçonneuse, il faut savoir que quand on range du bois, il y a plein de trous. Par contre, quand
Des trous d'air.
on va vous, il y a de l'air, donc par contre, quand on va vous le livrer, vous pouvez, si vous le demandez en stère de 1 mètre, je dirais en bois d'1 mètre, et livrer du bois, bah, vous aurez 1 mètre égal 1 mètre. Par contre, vous livrez souvent je dirais, en 80 cm, en 50 cm, en 33 cm. Donc là, il faut pas oublier que là, bah, il y a d'un seul coup, bah, les trous vont se boucher. Et en plus, si le bois est fendu, bah là, ça va encore plus se boucher les trous, hein. Donc vous aurez moins de trous que prévu. Donc c'est pour ça que quand on va vous livrer du bois et vous allez demander, vous allez revérifier, bah, et ça sera bien en dessous. C'est-à-dire que si on prend 50, bah, un stère de bois a été fait 0,8 mètre cube. Voilà. Parce que comme on a coupé en 50 et on a bouché les trous. Et si vous allez encore plus bas, vous allez en 33, alors là, vous êtes à 0,7. Et si vous êtes en 25, ça c'est pour les petits chauffages, petits Chkarloff et compagnie, vous êtes en 0,6 mètre cube. Alors presque, vous avez un mètre cube, un stier de bois égale un demi mètre cube, hein, donc presque. Donc tout ça pour vous dire que non, non, vous ne vous faites pas gruger. Si par exemple, on vous livre et vous avez un mètre et c'est toujours en 50, dites que vous avez gagné 20% de bois par rapport voilà, au producteur de bois. Mais vous inquiétez pas, il l'a pas fait exprès.
Donc, si je résume, un stère en 1 mètre fait 1 mètre cube. Un stère en 50 cm fait 0,8 mètre cube.
Ouais.
Un stère en 33 fait 0,7, c'est ça
Voilà,
Eric?
ouais, c'est ça.
Un stère en 25 fait 0,6 mètre
0,6.
cube. Donc, 0,6 mètre cube, pour réembrouiller tout le monde, 0,6 mètre cube fait 600 litres. Ça, si on devait le
Ouais.
quantifier en volume.
Ouais.
Ça fait 600 litres. Tu parlais, tu sais, des tonneaux tout à
Ouais.
l'heure, à l'époque. Ça, on sait que ça fait 1 mètre cube. Si on enlève, enfin, si on garde juste la cage, certains professionnels du bois de chauffage, effectivement, se servent de ça.
Ouais.
Parce que ça permet de montrer aussi le volume. Voilà. Mais encore une fois, entre un volume de bois et un volume empilé, c'est pas la même
C'est
chose.
pas la même chose.
Mais grâce à toi, pour le coup, il
Voilà.
existe aussi des applications qui permettent
Oui,
de
il y en
faire
a
la
plein
correction.
partout.
Mais ça faut le retenir, quoi.
Voilà.
On
Mais
est
ça
d'accord?
n'empêche pas que, je dis toujours, hein, c'est pas parce qu'on voulait vous gruger. Le livreur peut se tromper aussi. Vous pouvez mesurer et donc il faut prendre à peu près cette masse d'a. Cette logique-là, en sachant que souvent vous en mettez toujours un petit peu plus pour être tranquille, quoi.
Bien.
Voilà.
Est-ce qu'on a fait le tour de...
Non, des chiffres au jardin, il y en a plein, hein, mais je veux dire, là déjà, entre les unités de surface, plus les volumes, plus les petites astuces pour les angles droits et bien confondre, ne pas, de bien se, enfin, imager ce que c'est qu'un millimètre plus le ster, je crois que ça, c'est déjà pas mal, quoi.
Eric, est-ce que, alors tu parlais, je reviens juste 2 secondes sur notamment les massifs, sur le, l'idée c'est de calculer le volume qu'il faut en fonction, voilà, si je rajoutais par exemple du terreau, si je rajoutais par exemple, alors l'engrais en général c'est un peu différent, mais si je rajoutais de la terre par exemple sur une surface, il y a ce qu'on appelle l'effet de foisonnement aussi qu'il faut prendre
Oui, c'est
en
ça. Alors
compte.
des fois, alors là, c'est là. Alors des fois, on dit, bah tiens, là, j'ai fait un super beau calcul grâce à Brice et Eric.
Ouais.
Donc il me faut exactement 5 mètres cubes de terre et j'en commande que 5 mètres cubes.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Badaboum.
Et bah boum, là, c'est comme l'histoire des stères de bois, hein. Sauf,
Oui.
mais là, c'est-à-dire qu'en réalité, ben, quand ça va stater, se
Staté,
stater,
oui, non, c'est le jardinier qui state,
voilà, comme ça, voilà, quand ça va se tasser, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura plus que 3 stères, peut-être. Il n'y aura plus que 3 mètres cubes de terre. Pourquoi? Parce que les trous se sont bouchés.
donc, en gros, ce que Eric veut dire entre les... Voilà. Ce
Donc,
que Eric veut
moralité,
dire...
les maths, ah, vous n'avez rien à faire parce que c'est jamais bon, en fin de compte. Non, non, mais entre la réalité du vivant, je dirais du monde vivant, que ce soit du bois ou de la terre, je veux dire, bah, au bout d'un moment, ça va se tasser, donc vous en aurez beaucoup moins. Donc, l'intérêt, c'est qu'au début, si vous avez besoin de 5 mètres cubes, commandez-en 7, parce que
Voilà, parce que ça va se tasser.
ça va
Et
se
ça, faut
tasser.
avoir ça. Surtout sur des choses qui sont très aériennes, des composts par exemple qui sont très aériens, des terres de bruyère qui sont très louftiques, comme on dit nous en Alsace, hein, où il y a beaucoup justement de porosité, où il y a beaucoup d'air, la place, bah forcément, un petit, la première pluie, ça va redescendre et ça va vraiment
Ouais.
se tasser.
Et là, on le
Pareil
voit
sur le
bien des
star.
fois sur des terrasses où la terre allait au niveau des volets.
Oui.
Et au bout d'un an, ben, c'est 50 cm plus bas, quoi.
Quand c'est fait trop tôt, donc il faut laisser aussi derrière évidemment
Ouais.
reposer cette terre. Bien, Eric, maintenant nous avons fait le tour de la question, je vais te proposer de nous sortir le dicton.
Ouais,
Alors,
voilà un petit dicton.
mathématico-médical. Hein.
C'est ça, tout à fait. Qui fait beaucoup de calculs au jardin peut avoir beaucoup de soucis pour le pipi dans l'arrosoir.
Bon, ben bah, voilà, tout le monde a
Voilà, comme
compris les
ça permet
calculs.
d'annoncer la couleur, si je peux me permettre.
C'est ça, oui.
Enfin, voilà, c'est de dire voilà que bah, peut-être que dans les prochains moments, là, on va parler un peu de l'urine au jardin, des déchets organiques, des biodéchets aussi au jardin, parce
Oui.
que tout le monde voilà, cherche des engrais, tout le monde cherche du terreau, cherche du compost, mais il y a peut-être aussi des déchets, je dirais, voilà, très rapides qu'on peut utiliser, et notamment le déchet humain.
Bien, alors notamment, voilà, j'allais, pardon, je suis en train de me battre avec mon téléphone, mais c'est du direct, hein, comme on dit.
Mais bien
Je suis
sûr.
en train de me battre avec mon téléphone, une
Tant
personne
que
qui...
tu me téléphones pas, ça va?
Non, non, tout va bien. Je disais effectivement, la question autour des engrais alternatifs, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a certains de nos auditrices, de nos auditeurs, qui des fois nous parlent des toilettes sèches. Alors on le voit, hein, même si ce n'est pas le plus répandu, il y a aussi certaines choses et certaines constructions qui se font avec ces toilettes sèches. Comment composter justement cette matière fécale humaine, hein. Clairement, y a-t-il des précautions à prendre? Bah, c'est un dossier que Eric va vous proposer dans les prochaines semaines, parce qu'il y a beaucoup de choses, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus aussi, comme il ne faut pas faire n'importe quoi avec certains fumiers, hein, notamment la
Oui, tout
poudre.
à fait. Ouais.
On sait très bien qu'on n'utilise pas ça pur, notamment sur les salades. Attention aussi, parce que notion, il peut y avoir du germe pathogène aussi. Et puis après, bah, l'idée, c'est aussi de voir un peu avec Eric, les solutions et est-ce qu'au final c'est un bon engrais? Voilà, on passera tout ça en revue. Eric, ça te va?
Ben, c'est un engrais coupe-fouet,
Oui.
quelle que soit la longueur.
Ok, on va vous laisser là-dessus. T'es en forme. T'as commencé tout doucement et puis là, c'est... Voilà. Oui,
C'est
non,
la
mais j'ai très bien
timidité
compris.
de l'année, puis bon, voilà.
J'ai très bien compris, je n'ai plus de chasse aux oreilles depuis très longtemps. Mon cher Eric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
La semaine
Suivez-nous en
prochaine.
attendant sur Instagram, sur Facebook, abonnez-vous à notre newsletter, consultez notre blog, évidemment, revenez sur les dizaines de podcasts que nous avons faits. Mais, il n'y a pas de podcast sans le mot de la fin, Eric.
Alors le mot de la fin, alors que la dernière fois c'était plutôt ne faites rien.
Remballe pas toutes les affaires tout de suite, oui.
Non, non, non. Le mot de la fin, c'était voilà, de rien faire parce que le sol était tellement gorgé d'eau.
Oui.
Là, on peut quand même y aller, franchement. Mais n'oubliez pas, c'est que le sol est quand même, il y a quand même de l'eau, donc la moindre pluie fait que le terrain devient gras, quoi. Donc, quand il
Oh.
pleut,
Enfin,
même
ça
encore
caille aussi,
aujourd'hui,
Eric.
attendez 3-4 jours
Oui.
avant d'y aller, quoi.
Enfin, après, la terre est encore fraîche, on est
Oui,
d'accord.
c'est ça. Oui,
Hein?
mais
Donc,
pour voilà, pour planter, pour.
pour certaines choses, effectivement, on peut faire. Bien. Merci, Eric. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine,
Salut,
salut tout le
salut.
monde.